J'aimerais commencer par la lecture d'un passage dans Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16. Les versets vont être affichés. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est nous qui sommes la lumière du monde, a dit Jésus. Pourtant, si nous sommes la lumière du monde, il faut le dire franchement, nous n'en voyons que plutôt rarement les fruits. Nous sommes tellement loin de vivre une évangélisation comme les chrétiens du premier siècle. Qu'est-ce qui se passe? 1 million de perdus entre chaque semaine pour l'éternité, loin de Dieu, et est-ce aussi normal que nous le pensons? Quand on voit des hommes comme John Wesley, Hudson Taylor, Martin Luther, qui ont touché des milliers d'hommes et qui ont pu voir tant de conversions, la question, moi, m'est posée, mais qu'est-ce qui se passe ici dans notre contexte? Pourquoi l'évangélisation, c'est si dur? Alors, certains pensent que la solution, c'est de moderniser nos méthodes, nos moyens d'évangélisation. D'investir dans les nouvelles technologies pour pouvoir toucher, être plus proche de nos contemporains. D'autres, à l'inverse, pensent qu'il faut revenir à une piété plus sobre, à une profondeur dans notre vie d'Église. Oui, c'est vrai, les deux choses peuvent être vraies, mais... J'entends trop souvent dire l'évangélisation, c'est trop dur et ça ne marche pas. On a tout essayé, il n'y a rien à faire. Les églises grandissent très lentement en France, si elles grandissent, et nous en venons à être découragés, fatigués d'avoir tant investi, d'avoir tant donné d'énergie pour un résultat si maigre au final. Quelle place donner à l'évangélisation dans notre Église? Et c'est ce thème que j'avais choisi pour mon mémoire, auquel j'ai réfléchi ces quelques mois ici à Ozoir. Et je vais vous partager une petite partie de mes réflexions ce matin. Nous allons voir ensemble tout d'abord ce qu'est l'évangélisation et comment nous pourrions la comprendre et la vivre. Alors, qu'est-ce que l'évangélisation? Est-ce que c'est une soirée d'évangélisation, une soirée où on proclame l'évangile? Est-ce que c'est tout simplement aider son voisin à déménager? Est-ce que c'est prêcher dans la rue? Est-ce que c'est un culte de Noël ou un culte de Pâques? Comment définir l'évangélisation? Premièrement, l'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu et non celle des hommes. Matthieu 5, verset 14, « C'est vous, dit Jésus, qui êtes la lumière du monde. » Comment faisons-nous pour être la lumière du monde? Est-ce que c'est par nos propres forces? Est-ce qu'on peut fabriquer cette lumière pour être la lumière du monde? Aujourd'hui, je vais créer un peu de cette lumière dont Jésus a parlé. On définit très souvent l'évangélisation comme une œuvre humaine. On va faire de l'évangélisation. Mais il me semble que la Bible parle plutôt d'une évangélisation étant d'abord l'œuvre de Dieu. Alors, il existe en Autriche un petit village du nom de Rattenberg. C'est normal si ça ne vous dit rien. Parce que c'est un petit village qui a perdu beaucoup d'habitants. Il a perdu 20% de sa population en quelques années. Pourquoi ? À cause de l'obscurité. Rattenberg est niché derrière une montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. Et entre le mois de novembre et le mois de fin février, aucun rayon de soleil ne peut atteindre ce petit village. Ce qui a des conséquences sur la santé psychique de ses habitants. État de fatigue extrême, troubles du sommeil, sentiments de tristesse, dépression. Et en conséquence, un cinquième des habitants a quitté ce petit village. Alors, le gouvernement chrétien s'est posé la question, que faire pour aider ce village à revivre ? Et ils ont mis en place une trentaine de grands miroirs, immenses miroirs, pour réfléchir la lumière du soleil sur ce petit village. Pour que ça marche, les miroirs devront être absolument plats, afin que le rayonnement solaire soit toujours reflété sur le même point. Si le projet réussit, il pourrait être amené à servir pour d'autres petits villages qui souffrent aussi de ce manque de soleil pendant les quelques mois d'hiver. La lumière a des conséquences sur notre santé psychique. En Genèse 1, il n'y avait pas de ténèbres, il n'y avait que ténèbres, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La première chose que Dieu a créée fut la lumière. Sans lumière, pas de vie. Et souvent dans la Bible, la lumière symbolise la présence glorieuse et puissante de Dieu. C'est le psalmiste, en psaume 27, qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Et Jean, dans son évangile, va aussi parler de nombreuses fois de la lumière et de Jésus comme étant la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, en Jean 1, verset 9. Et Jésus dira de lui-même « Moi, je suis la lumière du monde. » Il continue un peu plus loin. « C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc si Jésus parle à ses disciples en leur disant qu'ils sont la lumière du monde, c'est tout d'abord parce que Christ est cette lumière en nous. Nous ne sommes pas la lumière du monde parce que nous sommes meilleurs que d'autres qui seraient dans les ténèbres, ou parce que nous essayons de faire du bien et que nous sommes la lumière, mais parce que Christ est cette lumière en nous. C'est-à-dire, en poussant un peu le raisonnement, qu'en allant acheter des pommes de terre, même sans parler explicitement de Jésus-Christ, si Christ rayonne en nous, si nous vivons une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu, nous pouvons rayonner, nous pouvons briller. Nous pouvons rayonner dans la tristesse, dans la joie, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la maladie. Ce rayonnement ne dépend pas des circonstances ou des moments, mais bien plus de la place que nous laissons à Christ dans notre vie. Et ce premier aspect nous amène à ne pas définir l'évangélisation en termes de méthode ni de moyens. Paul écrivait aux Corinthiens « Je vous ai annoncé Christ crucifié, de telle manière que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. » Il continue plus loin. « J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait pousser. » Tout pouvoir manifesté par notre témoignage et tous les fruits qui en résultent viennent de Dieu, d'abord. L'évangélisation, c'est d'abord être. Un passage que j'aime beaucoup, en 2 Corinthiens, chapitre 4, et les versets 5 à 7. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous pensons très souvent que nous serions plus efficaces dans l'évangélisation si nous avions tel don, si nous avions une santé meilleure, si nous avions lu plus de livres, si nous avions pu étudier plus, si nous avions eu un arrière-plan meilleur, ou si nous avions eu un environnement plus favorable, ou si nous étions dans une église bien meilleure, ou si nous avions encore plus d'argent ou plus de temps. Mais Paul dit exactement le contraire. Voilà la vie triomphale, une vie de victoire. 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous pensons que Dieu va agir par la vie d'un grand prédicateur, d'un grand théologien, d'un grand évangéliste, d'un grand pasteur. Et nous voulons, et nous cherchons peut-être à être ce grand pasteur ou ce grand évangéliste. Nous aimerions tant, mais Dieu donne sa puissance à ceux qui se reconnaissent faibles. Le trésor est à l'intérieur. L'évangélisation dépend d'abord de Dieu. Et pour nous, l'évangélisation est un fardeau qui peut être parfois dur à porter. Combien de fois, moi, je me suis senti coupable en évangélisant pas assez. Et à la fin de ma journée, je me disais, j'ai eu une super occasion de témoigner et je ne l'ai pas saisi. Et j'ai bredouillé quelques mots, j'ai vraiment pas été à la hauteur. J'étais trop timide, j'ai pas osé. Ou, quelquefois, je me dis, j'ai parlé trop vite, et je me suis trop emballé, et l'effet était plutôt l'inverse de ce que je voulais. J'en ai trop dit, je me suis mal exprimé. Culpabilisé par l'évangélisation. Mais heureusement, nous avons un Dieu souverain. Il n'y a que lui qui touche ses cœurs, qui ouvre les yeux des aveugles spirituels. Dieu seul peut donner la foi. J'aimerais lire un passage dans un livre que je trouve super, que je vous recommande, « L'évangélisation à la souveraineté de Dieu » de Packer. Je lis juste un passage. Notre évangélisation n'est que l'instrument que Dieu utilise à cette fin. Mais la puissance n'est pas dans l'instrument, elle est dans la main de celui qui s'en sert. Il faut nous en souvenir à chaque instant. Et si nous oublions que Dieu seul peut donner la foi, nous arriverions très vite à croire que la conversion des autres dépend finalement non pas de Dieu, mais de nous. Et que le facteur décisif est notre façon d'évangéliser. Suivre un tel raisonnement jusqu'au bout nous mènerait très loin dans l'erreur. Donc l'évangélisation, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Mais l'évangélisation, c'est aussi l'œuvre de Dieu au travers de nous. C'est mon deuxième point. L'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu au travers de son Église. Et là, j'ai quatre réflexions. Premièrement, une église qui brille est une église qui le fait collectivement. Si tu peux descendre juste un petit peu. Merci. Une église qui brille est une église qui le fait collectivement. Matthieu 5, verset 14, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Remarquez que le « vous » est au pluriel. Jésus ne s'est pas adressé au meilleur évangéliste des disciples en disant « toi, tu seras la lumière du monde » ou à deux, trois en disant « vous, vous avez plus ce don, donc vous, vous serez la lumière du monde ». Et Jésus insiste en disant « vous, vous êtes la lumière du monde ». Personne n'est à lui seul la lumière ou le sel de la terre. C'est un vous collectif, ensemble. C'est-à-dire que tous les chrétiens, sans exception, sont appelés à non pas être des évangélistes, parce que Dieu réserve ce don à quelques-uns, mais à être les témoins de Jésus-Christ. Nous sommes tous, les chrétiens, nous sommes tous les témoins de ce que Jésus-Christ a fait. Et nous sommes tous capables de dire au moins un petit peu ce que Dieu a fait ou la manière dont nous connaissons Dieu. Celui que Dieu a envoyé dans le monde est mort. Et le monde croit en être débarrassé. Et 2000 ans plus tard, face à un monde qui affirme toujours que le Christ est mort, l'Église est là pour annoncer le contraire. Jésus-Christ est toujours vivant au travers de son Église, au travers de ses enfants. La vie de l'Église elle-même est déjà un témoignage puissant. Jean 13, versets 34 à 35, Jésus parle et dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous avons vu que l'évangélisation, c'est d'abord être, mais c'est aussi vouloir. Vouloir s'aimer les uns les autres. Vouloir garder cette unité, vouloir refléter la vie de Christ. Une Église qui reflèterait parfaitement l'amour et la grâce de Christ ferait envie à tous ceux qui l'observeraient. Elle serait beaucoup plus efficace quant à la proclamation de la vérité de l'Évangile que toutes les vérités publiques, que toutes les pétitions et les campagnes d'information. Elle saurait ouvrir les cœurs à la grâce plutôt que de les refermer. Elle serait une avant-première du ciel. Telle est la volonté de Dieu pour son Église. C'est vous, dit Jésus, qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit une lumière dans le monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Que nous puissions penser à cela. En nous levant le matin, nous rappeler avec mes frères et mes sœurs, nous sommes la lumière du monde. C'est un appel profond et puissant à vivre différemment, n'est-ce pas ? Je ne peux pas faire n'importe quoi. J'ai un rôle, j'ai une place, j'ai un sens. Une Église qui brille est une Église qui le fait collectivement. Et ma deuxième remarque, c'est une Église qui brille est une Église qui est visible. Une Église qui brille est une Église qui est visible. Matthieu 5, verset 15, Jésus continue, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Jésus dit, d'accord, vous êtes la lumière du monde, mais ne vous cachez pas. Au contraire, que votre lumière brille devant les hommes. Autrement, à quoi sert la lumière ? Une lumière sous le boisseau, c'est-à-dire une lumière sous un seau, une lumière comme ça est inutile. C'est comme si elle n'existait pas ou très peu. Au contraire, si elle est à sa place, si elle est sur le chandelier pour éclairer les gens de la maison, la lumière est efficace. Imaginons que nous sommes des lampes de poche éclairées perpétuellement. Mais il est vrai que on peut mettre une lampe de poche dans la poche. Notre responsabilité, être visible dans notre entourage. Naturellement et sans honte. Vouloir être visible, c'est être convaincu que nous sommes ces vases qui, au travers de leur faiblesse, laissent passer cette lumière de Christ. Alors, le fait que nous soyons cette lumière du monde ne nous donne pas de pouvoir être orgueilleux en disant « Nous sommes meilleurs que les autres, après tout, nous sommes la lumière du monde. » Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous avons été pardonnés, acceptés à cause de Jésus-Christ. Nous avons été graciés par le Créateur Tout-Puissant. Quelle merveilleuse réalité de pouvoir le dire sans honte. Pardonnés par le Créateur le Tout-Puissant. Mon troisième point, c'est une église qui brille est une église qui est active. Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Il est question d'œuvres bonnes, et on a souvent tendance à réserver cette expression « bonne œuvre » pour l'Église catholique surtout. Alors, quel est le sens de ces œuvres bonnes ? Ces œuvres bonnes sont là dans un but, nous dit Jésus, afin que les hommes voient vos œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nos œuvres ne sont pas là pour nous valoriser aux yeux des autres ou pour faire fléchir Dieu qui dit, après tout, ce Jean-Rémy, il est pas mal, hein, il fait des bonnes œuvres. Il mérite peut-être le paradis ou une place d'honneur. Ces œuvres ne sont pas là pour nous justifier à nous, ou pour montrer devant Dieu que, après tout, nous ne sommes pas si mal que ça. Mais ces œuvres sont là pour glorifier Dieu. Oui, nous avons été pardonnés, graciés, sauvés. Et voilà comment cela se montre au travers de notre vie. Nous voulons témoigner de ce que Jésus-Christ a fait par nos actes, par nos paroles. Le problème pour ces œuvres bonnes, c'est qu'il y a déjà tant de choses que l'État ou des associations font dans la ville pour faire du bien aux autres. Mais il faut réfléchir, il me semble sérieusement, selon notre contexte, à la question « Comment démontrer que nous sommes les premiers concernés par les souffrances des autres, par nos contemporains ?» En tant que chrétiens, graciés, nous sommes les premiers concernés à nous soucier du bien des autres. Parce qu'il y a danger de prêcher l'Évangile sans compassion, sans amour, et il est facile de dire « Dieu est amour, Dieu vous aime !» et de nous détourner de ceux qui sont dans le besoin, si on ne le montre pas concrètement. La souffrance que nous voulons surtout ôter est la souffrance de l'enfer, la souffrance d'être coupé de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut toujours préserver la centralité de la proclamation de l'Évangile, mais accompagnée d'actes qui montrent cet amour. La quatrième remarque, une église qui brille est une église qui est pure. Là, je lis un passage dans Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable et pur. des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Alors non, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. Ce n'est pas parce qu'on s'investit dans l'Église qu'on va être parfait aussi. On a tous à faire des efforts pour se garder pur, pour être irréprochable, inattaquable. Et d'ailleurs, Jésus dit, avant notre passage de Matthieu 5, 14, au verset 13, il dit, « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Notre comportement en tant que chrétien est différent de celui de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Et nous brillons parce que notre comportement reflète celui de Christ, n'est-ce pas? Notre norme, c'est Jésus-Christ. Et cela nous donne une attitude différente de ceux qui vivent dans le monde et qui n'ont pas cette norme en Jésus-Christ. Nous avons été créés pour refléter Christ. Et ce qui est formidable dans ce passage de Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7, c'est que Jésus va expliquer bien concrètement et en détail ce que c'est ce comportement irréprochable. Et il va notamment aborder la place de la loi, la maîtrise de la parole, la maîtrise de nos pensées, la compréhension du mariage, l'amour, même l'amour dans la persécution, la gestion de l'argent, la prière, le pardon, le jeûne, les inquiétudes, le jugement des autres. Toute une liste fort intéressante que je ne peux pas étudier en détail, mais qui serait vraiment intéressante à pouvoir étudier chacun pour nous. Voilà la norme de personnes qui reflètent Christ. Et je vous assure que si nous vivions exactement selon Matthieu 5 à 7, nous aurions un témoignage puissant. Alors peut-être, dites-vous, super, je suis le sel de la terre, la lumière du monde, et je pars pour le montrer. Ce serait formidable. Mais avant de nous embaucher, Christ a prévenu, ce sera dur. Quelques versets en Matthieu 5 disent « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est Jésus qui parle. Plus nous brillerons dans ce monde, plus nous rencontrerons des pompiers du mal prêts à souffler sur notre bougie. Conclusion, je n'ai pas abordé dans ce message la place du message pour être un message d'évangélisation. Je ne me suis pas arrêté sur le contenu. Je n'ai pas exploré les moyens qu'on pourrait utiliser en fonction de notre contexte ici à Ozoir, ni de l'importance de la prière dans le combat spirituel, ni de la difficulté rencontrée par l'opposition que forcément cela engendre. Mais j'aimerais vous laisser deux choses avant de terminer. Premièrement, l'évangélisation, c'est pas compliqué. Et deuxièmement, l'évangélisation, on la complique souvent trop. L'évangélisation, c'est pas compliqué, parce que c'est d'abord être. Être et vivre en tant que chrétien. C'est l'œuvre de Dieu en nous d'abord. Donc on cherchera d'abord comment Dieu pourrait être plus glorifié au travers de notre vie. Collectivement, individuellement. La base de toute évangélisation, c'est comprendre que c'est Dieu qui est le divin évangéliste. Et puis l'évangélisation, on la complique trop. La plupart des chrétiens voient l'évangélisation comme un domaine dans l'Église, une activité, une méthode réservée pour les spécialistes, ceux qui ont le don. Et on veut le cantonner à un domaine spécifique de la vie de l'Église. Et souvent, nous avons tendance, pour alléger notre bonne conscience, à nous dire « c'est pas pour moi, c'est plus pour le frère Antel qui a cette capacité ». Mais on risque d'oublier que Jésus a dit « c'est vous la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde ». Nous avons une responsabilité de briller dans ce monde de ténèbres. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que Christ, à la croix, par son œuvre, a fait de nous la lumière du monde. L'évangélisation, c'est être d'abord, c'est vouloir ensuite.